Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Toi qui écoutes Radio Canu à 22h et quelques petites poussières, c'est l'heure de la causerie, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et ce soir dans les studios, nous avons Clara la technique.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons Fab.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Et donc on commence cette 413e causerie. Et
oui. C'est la 414e, mais on va faire comme si c'était
non,
la
413e. Non, t'es pas sérieux. Oh là là, j'ai foiré mes notes. Et je voulais tellement faire style 414e causerie, tout ça. Bon, bah voyez, j'ai merdé. Donc voilà, bref. On va tout de suite, je vais tout de suite vous donner les manières
de nous joindre.
De nous joindre, c'est bizarre ce soir. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail à lacauseriecanu, tout attaché en minuscules ou pas. lacauseriecanu@gmail.com. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les émissions, les 413 précédentes. Là, je l'ai bien. Sur le blog de l'émission, c'est à blogs. On appuie le S parce que c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a un S. Donc, blog, au pluriel, .radiocanu.org/lacauserie.
Barre oblique.
Pardon. Et évidemment, si vous tapez la causerie canu... peu partout, parce qu'on est partout, parce que vous n'oubliez pas que ma mission première, quand même, est de conquérir le monde. Donc là, vous tapez la causerie canu, vous nous trouverez.
Bah, on est sur tout ce qui est streaming aussi, tout ce qui est podcast, oui. On est sur un réseau social aussi. Voilà. Enfin, socio-commercial plutôt.
C'est ça. Voilà. Et tous les autres qui s'appellent la causerie, ben c'est pas nous, quoi. Parce que ouais. Nous, c'est la causerie canu. Voilà.
Nous, on est à la radio. On est ni dans les églises, ni dans les bars.
C'est ça. Ni dans les restos. voilà. Et ben, je crois qu'on a tout dit, non? J'ai déjà dit assez de conneries en 2 minutes. Oui. Donc, je vais lâcher le micro. Alors, toi, Clara.
Amis auditrices et auditeurs, vous remarquerez que la drogue, c'est mal.
C'est voilà. Le pire, c'est qu'on est absolument...
Bien, c'est qu'on est à jeun.
C'est peut-être le pire. Faut peut-être qu'on commence, je ne sais pas. Enfin bref, donc c'est Fab qui va commencer cette émission et tu vas nous parler de frontières, de personnes pris en étau.
Ouais, je vais pas parler d'un sujet très drôle, mais en tout cas, j'avais envie de l'aborder parce que on en entend un petit peu parler dans les médias quand même, mais je trouve pas vraiment à la hauteur de ce que ça devrait être. Et surtout, ça ne suscite pas les réactions que ça devrait mettre en route. Et c'est surtout ça qui m'interroge au-delà de l'horreur dont je vais parler. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines qu'on a des images assez terribles qui nous arrivent de la frontière Biélorussie-Pologne. Alors, pour mémoire, c'est une frontière qui fait 407 km de long, parce que j'ai remarqué que les journalistes avaient tendance à parler d'une frontière comme si elle était minuscule.
Oui, c'est un endroit.
Elle fait 407 km de long et elle est constituée par plusieurs rivières, plaines et quelques vallées. Voilà, okay. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, entre la Biélorussie et la Pologne, en fait, il y a, c'est pas des grandes montagnes, mais c'est un peu vallonné, et surtout des rivières, c'est ce qui va dessiner, en fait, cette frontière. Alors, ça a son importance pour comprendre ce dont on va parler après, dont je vais parler ensuite, c'est-à-dire, en fait, le fait que 4000 réfugiés soient coincés sur la frontière, et ne passent, en fait, pas n'importe où et que ça se passe effectivement à un point précis. Et pourquoi ? Bah parce que c'est le point le plus pratique pour passer la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, et c'est à côté de la ville de Kuznica. Voilà. Donc si vous entendez parler de la vallée de Kuznica ou la ville de Kuznica, c'est effectivement le point de passage entre la Biélorussie et la Pologne qui est le plus usité parce que c'est le plus facile à traverser. Alors en fait, c'est bien un drame humain dont je vais parler ce soir, parce que c'est celui de milliers de personnes qui sont coincées en fait dans une sorte de no man's land entre finalement la frontière de ces deux pays, coincée physiquement d'un côté par les militaires biélorusses et de l'autre par des militaires et des policiers polonais. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les images, je vous invite à aller voir ces images parce qu'elles sont assez impressionnantes. Moi, je me dis qu'on est en 2021 et moi, je me demande profondément comment en 2021 on peut encore avoir ce genre d'image, d'autant plus à la frontière polonaise. Parce que, je vais juste le dire comme ça, je fais une petite parenthèse, c'est la région où se trouvaient la plupart des camps d'extermination de la Seconde Guerre mondiale et c'est aussi la région qui a été la plus irradiée suite à l'accident de Tchernobyl en Pologne. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas une région qui ne connaît pas des catastrophes et des horreurs. Voilà, c'était juste pour dire, c'est symptomatique quand même de, comment dire, de visibilité à cet endroit-là. Donc, on va être très clair, hein, il y a un jeu de dupes hein, dans tout ça, tout le monde en est conscient, hein, depuis que maintenant que Alexandre Loukachenko est revenu au pouvoir en Biélorussie. Donc il a maté, je vous rappelle, dans le sang hein, des manifestations qui se disaient pro-liberté et qui l'étaient hein, entre 2019 et 2020. Alors il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'arrestations, plusieurs milliers de personnes tuées a priori. Bon, les chiffres officiels n'existant pas, c'est compliqué de savoir combien. Mais il a surtout fait enfermer des militantes et militants, des journalistes, des milliers de personnes par simple décret et avec l'aide du KGB russe, enfin biélorusse pardon, voilà, parce qu'il a gardé le KGB. La Russie a dit on fait le FSB, il a dit non, KGB ça claquait bien. Voilà. Donc l'Union Européenne, depuis son retour au pouvoir, elle a mis en place des sanctions à l'encontre notamment des dignitaires du régime de Loukachenko. Voilà, et c'est un régime parce que l'Europe le classe dans les régimes de terreur, c'est une appellation officielle en Europe. Et donc ces sanctions, non seulement les dignitaires mais aussi leurs familles. Alors c'est là en fait que ça gratouille un peu, parce qu'en fait parmi les dignitaires du pouvoir biélorusse, il y en a beaucoup qui avaient monté des entreprises dans l'Union Européenne ou qui venaient faire leurs études dans l'Union Européenne, et en fait ces gens ont été privés de la capacité d'investir et de pouvoir rester faire leurs études. Et là ça a eu un impact dans le sens où il y a une perte d'argent quand même pour des gens, et que ça les a un peu énervés, ce qui était le but hein, donc voilà. Et en fait, ce qui a aussi été quand même mis en avant aussi, c'est que l'Union Européenne a en fait limité les importations et exportations entre la Biélorussie et l'Union Européenne. Alors, la seule chose qui n'a pas été limitée, c'est l'aide alimentaire, hein, on va être très clair, parce qu'il y a besoin en Biélorussie parfois d'aide alimentaire, mais tout le reste, c'est-à-dire le gaz notamment, parce que la Biélorussie fournit du gaz, et les choses ont été réglementées, donc du coup, voire diminuées, et donc c'est aussi une perte d'argent pour le pouvoir de Loukachenko. Donc c'est pour ça qu'en fait, il va s'agacer, le monsieur, mais vous allez voir un petit peu les outils qu'il utilise. Donc de l'autre, hein, en Pologne, on a la présence d'une coalition qui va de l'extrême droite à la droite conservatrice. Bon, des fois c'est un peu compliqué de voir la différence entre les deux, mais voilà. Donc la coalition qui est à la tête de la Pologne, elle est anti-européenne. Elle est pour la sortie, le Polksit, comme ils disent, la sortie de la Pologne de l'Union Européenne. Elle est nationaliste, raciste, sexiste. Voilà, des gens bien, quoi. Donc, depuis des années, je plaisante, hein, parce que je vais pas aller vous reprendre cette phrase, il est d'accord. Donc, depuis des années, en fait, entre remise en cause du droit des femmes, enfin, des droits des femmes, des minorités sexuelles, des personnes trans et autres, et bien sûr, c'est maintenant sur les réfugiés que ce pouvoir tape en premier, parce que ça permet, ou du moins, comme ils le disent, sur les personnes non polonaises, c'est bien, moi, comme appellation. Donc, ces politiciens de la haine, hein, ils crachent de plus en plus, tout simplement parce qu'en fait, ils sont en perte de vitesse dans les sondages et qui savent que potentiellement si une élection arrivait, ils risquent de ne pas repasser. Donc quand ça arrive, le mieux c'est de se créer un ennemi, oui, intérieur ou extérieur, mais un ennemi c'est bien.
Surtout que là il y a quand même eu aussi des grosses manifs féministes, antisexistes en tout cas, parce qu'il y a une Polonaise qui est morte,
qui est décédée
suite à la loi, un avortement parce que la loi était
tu en avais parlé d'ailleurs.
Oui, l'IVG est quasi interdit en Pologne en fait, et donc ça va dans le sens de tout ça, quoi. C'est-à-dire que là il faut un nouvel ennemi, donc
c'est-à-dire quand vous avez entre 40 et 50 000 personnes dans les rues de la capitale qui dénoncent votre politique, que bah, vous n'êtes pas très à l'aise et vous savez que ça ne sent pas forcément très bon pour vous, et que comme vous êtes dans l'Union Européenne, ça va être difficile de devenir dictateur. C'est un petit peu le truc, voilà. Et en fait, donc, ces fameux réfugiés dont je vous parlais, ils payent le prix de ce jeu géopolitique morbide. Le gouvernement biélorusse, aidé a priori par le gouvernement russe, c'est a priori, mais dans tous les cas, le gouvernement biélorusse peut le faire tout seul, hein, il fait venir en fait des réfugiés depuis plusieurs mois, en fait, sur ce point. Il les fait venir par charter. Alors, il y a des gens qui ont dit, mais comment on a su ça? Alors, c'est très simple, en fait. On l'a su parce qu'ils ont délivré des visas. Et donc, en fait, quand vous avez un visa, bah, vous les déclarez. Donc, en fait, on a vu qu'il y avait des visas biélorusses. Et donc, bah, si vous avez un visa, c'est que vous êtes passé par une ambassade ou un consulat. Et donc, on vous a fait venir volontairement. Donc, voilà. Donc, ça fait depuis le mois d'août. Alors, ça a commencé par une dizaine, une vingtaine, une trentaine, puis des avions complets. Et puis, voilà. Donc, on voit que c'est une vraie politique volontaire, hein, qui est menée là. Et en fait, on dit à ces gens, la Biélorussie est votre point de passage pour l'Europe. Donc, venez en Biélorussie et vous pourrez rentrer en Union Européenne. Voilà. Et en fait, eh ben, depuis, la Pologne, elle a réagi comment? Ben, elle a fermé ses frontières. Alors, on va être clair, Frontex n'y est pour rien, pour une fois. Alors, c'est un peu bizarre, mais elle a agi de son propre chef, la Pologne, parce que c'est vrai que l'Union Européenne n'était pas forcément d'accord pour une fermeture complète des frontières. Voilà. Mais bah, comme c'est un peu bâtard dans l'Union Européenne, entre le pouvoir des États d'un côté et le pouvoir de l'Union Européenne de l'autre, la Pologne s'est saisie de ça, hein, c'est ce que je disais au-dessus, pour fermer totalement les frontières militairement, en décrétant un état d'urgence militaire. C'est-à-dire comme s'ils étaient attaqués, comme si c'était la guerre, hein, pour être clair. Donc l'idée, en fait, hein, pour Loukachenko, c'est de se servir donc de ces réfugiés pour faire pression sur l'Union Européenne, et en particulier en renforçant la haine au sein de la Pologne, pour qu'en fait l'Europe vole en éclats. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, en fait, Loukachenko, il se dit, si la Pologne se barre de l'Union Européenne, c'est bon parce qu'elle va repasser sous le giron de la domination russe, hein, parce que c'est un vrai jeu de géopolitique, parce que Loukachenko, il est protégé par Poutine et par son pouvoir, hein, donc voilà. Et donc, bah, ce sera tout bon pour nous, parce qu'on pourra commencer à grignoter l'Europe, parce qu'on en est là, hein, c'est pas autre chose, hein, qui est derrière. Donc le PiS, hein, c'est le parti qui est à la tête de la Pologne, qui est le parti Droit et Justice, qui est d'extrême droite, et qui donc dirige la Pologne quand même depuis bientôt une quinzaine d'années, je crois 10-15 ans, hein, si on regarde entre les élections locales et nationales. En fait, il voit dans cette crise diplomatique, lui, le moyen de redorer le blason, hein, en passant au niveau de l'Union Européenne, pour ceux qui défendent les frontières de l'Europe, en bloquant ces réfugiés qui nous envahissent, voyez. Donc en fait, tout le monde joue avec ces personnes, et la Pologne dit, bah, du coup, oui, on fait des lois qui sont anti-européennes, hein, parce que notamment l'atteinte aux droits des minorités, c'est dans la Constitution Européenne, dans les textes fondamentaux de l'Europe, c'est pas possible. Mais du coup, comme on vous protège de cette invasion, vous n'allez pas trop nous embêter. Oui, c'est un peu l'idée qui est derrière. Donc, au milieu de tout ça, en fait, on a aussi une Union Européenne qui est complètement, encore une fois, distendue, qui n'arrive pas à parler d'une seule voix et qui arrive à pas à se pencher sur une solution concrète et claire. Je vous rappelle, on parle de 4000 personnes. Hein, voilà, bon. À noter qu'il semble aussi que la Biélorussie, en fait, elle aimerait avoir le même statut que la Turquie. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle aimerait toucher des milliards d'euros venant de l'Union Européenne pour faire des camps de réfugiés sur son sol et empêcher et protéger l'Europe, entre guillemets, comme on dit, de ce flux migratoire de gens qui viennent nous envahir. Voyez. Alors, je rappelle que j'en rigole, mais c'est pas drôle, mais c'est juste parce qu'en fait, à un moment donné, je sais plus comment réagir à tous ces discours xénophobes et haineux où on nous fait croire que 4000 personnes vont envahir l'Europe. Ouais, ça va
être un truc. Oui, quoi. Et encore, c'est pas forcément toujours haineux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est en oui, fait, c'est plus sur. On agite des peurs, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que peur, oh là là, d'un coup, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. Enfin, je veux dire entre le facho qui a dit que.
Je vais y venir.
Ah
après.
Pardon. Ouais, ok, ouais. Ben je te laisse venir alors.
Et donc, c'est vraisemblablement, hein, ce qui motive le plus Loukachenko, c'est l'idée de pouvoir avoir le même statut que la Turquie, parce que il gagnerait sur deux tableaux. Le premier, il gagnerait du fric, parce qu'il faut pas rêver, hein, ça rapporte énormément. Et le deuxième, c'est qu'il démontrerait que l'Europe s'assoit finalement facilement sur ses valeurs quand ça l'arrange, ce qui lui permettrait de faire lever les sanctions en disant bah, puisque on l'avait sanctionné, vous voyez.
Voilà. Oui, et en même temps ça lui donnerait un poids
politique,
taille sur l'échiquier politique mondial, quoi.
Et puis ça lui ferait des gages pour aller voir monsieur Vladimir.
C'est ça.
Donc mais pendant ce temps-là, en fait, bah, des femmes, des enfants, des hommes s'entassent, hein, sous des tentes de fortune. Alors je vais juste le dire, il y a eu au moins un mort, on a retrouvé un corps aujourd'hui d'un jeune homme, a priori mort de froid. Pour être clair. Donc en fait, il faut savoir que les tentes, elles sont parfois détruites, hein, par les armées d'un côté comme de l'autre. Et donc ils sont bloqués par le mur de barbelés qui est érigé depuis 2018 à la frontière polonaise. C'est assez, voilà. D'ailleurs, on parle là quand même de milliers de personnes, hein, et moi je le redis, ce sont surtout des enfants, hein, et qui ont donc des températures pouvant approcher 0 degré la nuit. Il y a des météorologues qui d'ailleurs commencent à dire, parce qu'ils ont pris la parole, parce qu'ils sont sortis de leur précaré, comme ils l'ont dit, pour rappeler qu'en fait le corps humain n'est pas prévu pour vivre sans être couvert, sans rien à ces températures-là, et c'était volontaire de leur part de le souligner en Pologne. Donc ils survivent sans vraiment d'aide depuis des jours, dans l'humidité et avec la faim au ventre, parce que jusqu'à maintenant, les ONG pouvaient apporter de la nourriture, des tentes, de quoi s'habiller, sauf que y a une loi qui vient de passer au nom de ce fameux cette fameuse état d'urgence militaire, hein, en Pologne, qui dit que maintenant les ONG n'ont plus le droit d'approcher de la zone de conflit. Je vous rappelle que c'est pas un conflit, c'est pas des gens armés, hein, ce sont des gens qui marchent avec juste rien. Ils sont bloqués là aux portes de la zone la plus riche du monde, c'est-à-dire l'Europe. Et donc pour couronner le tout, hein, donc comme je disais, les ONG peuvent plus les approcher. Il faut être conscient d'une chose, c'est que c'est une situation qui est clairement provoqué, on en est tous conscients, oui, c'est un jeu géopolitique, oui, c'est un jeu qui est dégueulasse, oui, on se sert de gens comme de chair à canon, comme on l'a toujours fait, hein, de toute façon, et on est donc en fait dans une situation où l'enjeu aujourd'hui, ça va être d'éviter la mort de ces réfugiés. Okay. Parce qu'on va être clair, hein, si rien n'est fait, il va y avoir des morts encore. On ne parle pas juste, je sais pas, de gens qui sont là et qui peuvent attendre. Non, on parle de gens qui, dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent, si l'hiver polonais se met en place, et on est dans une des zones les plus froides, je vous rappelle le climat continental, on est en Pologne, il fait extrêmement froid, les nuits vont tomber très très bas. Il y a des gens qui disent que d'ici une quinzaine de jours, on pourrait descendre à moins 15, et on sait qu'il y a des gens qui vont mourir de froid. C'est juste aberrant, mais on en est là. Donc il y a eu quand même des réactions en France, hein, c'est pour ça que je disais que je y venais. Donc vous savez que dans le climat actuel, hein, c'est les préélections du président roi des Français. Hein, donc il était quand même prévisible que ce qui se passe soit instrumentalisé, parce qu'il ne faudrait pas déconner quand même. Et rassurez-vous, on n'a pas été déçus. Hein, j'essaye d'en rire, je ne devrais pas, mais c'est juste, prenez ce rire pour ce qu'il est, c'est un rire de cynisme, au bout d'un moment, je ne sais plus... Sinon, je hurlerais dans le micro et je préférerais essayer d'être cynique. Donc, ça a été le cas, hein, et ça n'a pas été que par l'extrême droite. Hein, je vous rassure, Monsieur Montebourg, par exemple, en a très bien parlé. Voilà. Donc, évidemment, sur la chaîne officielle de la haine, hein, j'ai donc nommé CNews, parce que maintenant, on a une chaîne officielle de la haine, donc autant quand même de temps en temps regarder...
Mais on n'avait pas laissé Fox News à l'Amérique, hein.
Bah oui. Nous, on a notre CNews maintenant. Donc, c'est surtout l'émission du fameux Pascal Pro, hein, cette émission où ils s'en sont donnés à cœur joie. Hein, donc, dans le dévidoir de haine recuite que sont ces 2 heures d'émission par jour, quand même, parce que je vous rappelle qu'il a l'émission le matin et l'émission l'après-midi, parce que ça manquait. Donc, il s'appelle l'heure des pros. On a donc des gens qui prennent fait et cause pour l'extrême droite polonaise, hein, qui nous expliquent que heureusement que l'extrême droite polonaise est là. Bon, ils prennent aussi fait et cause pour l'extrême droite française. Là,
ils sont cohérents. Ils sont cohérents, quoi.
Mais ils vont tout légitimer, y compris, pourquoi pas, hein, le recours aux armes, hein, c'est-à-dire tirer sur les réfugiés. Oui, cette phrase, je tiens à la redire, tirer sur des réfugiés. Parce que c'est ça, en fait. À un moment donné, il faut poser les mots. Quand on dit on pourrait tirer sur ces gens, parce qu'ils n'osent pas dire on pourrait tirer sur ces migrants ou sur ces réfugiés. Non, c'est ces gens, parce qu'on essaie de les déshumaniser. Non, c'est tirer sur des réfugiés. Alors c'est d'ailleurs Yvan Rioufol, hein, du Figaro, ce fameux Yvan Rioufol, qui râle plus loin, allant même jusqu'à laisser entendre que ça serait quand même un bon moyen de dissuader les gens de venir, de leur tirer dessus. Ouais, ouais. Alors, je voulais juste rappeler à Monsieur Rioufol que ces gens, en fait, c'est 80% de gens qui viennent du Kurdistan irakien, à peu près, on le sait, parce qu'on a parlé visa, on a pu, voilà. C'est des gens qui connaissent la guerre depuis maintenant 25 ans. Si les coups de feu leur faisaient peur, ça se saurait. Voilà. Donc même l'argument est débile. C'est-à-dire que même la personne ne réfléchit pas à qui sont ces gens, d'où ils viennent et ce qu'ils ont vécu. Non, c'est juste un argument de haine de base. Et en fait, c'est juste quelqu'un qui a envie de flinguer des gens qui sont pas français.
Mais oui, et puis titiller le cerveau reptilien des auditeurs, enfin des téléspectateurs et des téléspectatrices. Hein,
Donc en fait, même la droite hein, se lâche, hein, mais comme avec M. Rioufol, mais enfin on va rappeler quand même que c'est un proche d'Éric Ciotti, hein, député Les Républicains, qui rêve d'un Guantanamo à la française. Donc ça se
oui,
tient.
Oui, c'est ça, c'est Ciotti déjà, il est pas loin de l'extrême droite quand même depuis un moment.
Il a
hein.
même les deux pieds dedans.
Mais moi. Oui, c'est ça en fait, c'est pour ça que c'est drôle, tu dis donc le mec en fait, il postule pour être président des LR, sauf qu'en fait, mec en fait va voir le RN direct, ouais. En fait ça sert à rien.
On va faire premier ministre d'Éric Zemmour.
Mais oui, là. C'est ça.
Donc au Parlement européen, le député du Rassemblement national, Jordan Bardella, alors Monsieur Bardella, on va lui rappeler quand même que sa famille n'est pas arrivée par hasard, voilà, mais peut-être qu'un jour il comprendra, mais il a un peu du mal. Il tiendra un discours d'ailleurs sur le temps de parole de son parti, parce que vous savez qu'au Parlement européen, chaque parti a le droit de parler, ce qui est normal, hein, attention, pour expliquer que nous vivons là une invasion. Alors, je suis allé chercher dans le dictionnaire la notion d'invasion. Alors, l'invasion, ça ne se fait pas sans armes, déjà, et ça ne se fait pas en respectant l'idée de ne pas avancer quand on vous dit de pas avancer. Donc, je sais pas où est l'invasion, là, mais bon, il aime bien les mots qui claquent. Donc, il va aller jusqu'à expliquer que ces gens qui s'entassent hein, dans des conditions de merde, je le rappelle, sont des futurs délinquants et terroristes de demain. Bah, évidemment, c'est son credo, celui ah, oui. du Rassemblement National. Alors, on sera pas surpris hein, que ce discours soit vu comme éclairé et visionnaire par le même Pascal Praud dont je parlais tout à l'heure, qui l'a donc présenté comme étant le discours le plus politique, le plus courageux de l'année. Voilà, la boucle est bouclée. Bon, c'est ça les réactions. Alors, les candidats à la présidentielle, ils se lâchent, hein, on le voit, alors, surtout à droite et hein, à l'extrême droite. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, bah, à gauche, ils la ferment. Et c'est un peu ça mon problème. Alors, je rappelle, moi, je ne vote pas, je ne crois pas au vote et je crois à la révolution. Donc, c'est très clair. Mais je m'attendais quand même à ce que cette situation amène les gens qui sont progressistes, humanistes, ou qui se présentent comme tels, à avoir un discours clair et pour une fois un petit peu ouvert, et de dire, ben, faut faire quelque chose, vous voyez ce que je veux dire à un moment donné. Alors, je vais faire une parenthèse, il y a des associations qui le font. J'ai vu des déclarations du Secours Populaire, j'ai vu des déclarations de la Fondation Abbé Pierre, j'ai vu des déclarations du DAL. Il n'y a pas de souci. Mais les partis politiques, ils ne font rien. Dans le sillage de leurs candidats, les principales forces de gauche semblent complètement atones et sans réaction face à une politique finalement haineuse menée aux portes de l'Europe et menée donc par la Pologne au nom de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de critique directe de ce qui se passe. Et comme si d'un coup, il ne fallait pas dire quoi que ce soit, il fallait se taire pour pas faire le jeu de ou je ne sais quoi, mais c'est juste aberrant. On ne peut pas rester silencieux sur la situation et sur ce qui se passe. On devrait avoir, et je ne vais pas citer leur nom parce que je ne vais pas leur faire de la pub, mais tous ces candidats de gauche, ils devraient tous être cette saisie de ce sujet-là. Ça devrait être la première chose dont ils parlent quand ils l'ouvrent pour dire « c'est pas possible ». Comme si, en fait, finalement, on était revenu à l'époque de Georges Marchais, qui, le 21 février 1981, à la tribune, appelle à la fin de l'immigration officielle et clandestine au nom de la protection des travailleurs français, sous les applaudissements d'une salle convaincue. Comme si d'un seul coup, une fois de plus, la gauche, cette gauche qui se pavane en permanence à nous expliquer que si on les élit, ils feront une vraie politique de gauche, et on sait que c'est pas vrai, en fait, était revenu à ses vieux démons, c'est-à-dire celui de suivre la droite et l'extrême droite pour essayer d'exister. Voilà, comme si ces crises obligent, hein, l'idée première de la gauche, aujourd'hui, l'internationalisme n'existait finalement plus. Je vous rappelle que être de gauche, c'est être internationaliste, historiquement. Donc, quand on n'est plus internationaliste, souvent on n'est plus de gauche. Enfin, bref, ça n'est peut-être pas plus compliqué ce que j'ai dit. Mais j'en attends rien, c'est pas. Mais juste, je suis surpris.
Voilà. Mais en fait, non, moi je pense qu'à un moment donné, justement, vous derrière le poste, si vous êtes des votants et des votantes, posez-vous à un moment donné les questions. C'est ça être de gauche en fait. C'est tenir à vos frontières, tenir à votre petite patrie. C'est ça être de gauche. Mais en fait, vous avez tout le programme commun avec des gens de droite à minima en fait. À un moment donné, c'est tout. Le truc, c'est que la gauche, de toute façon, pardon, mais la gauche, de toute façon, elle est comme ça. Elle aime ses frontières, elle aime sa patrie, elle aime sa nation. Je veux dire, le Mélenchon, le Ruffin.
J'avais dit que je leur faisais pas de pub.
Mais si, parce qu'à un moment donné, on va arrêter de pas les citer parce que ce sont
Rousset,
eux.
Mélenchon, Ruffin.
Mais oui, ils sont des adorateurs de tout ça. Ils aiment leur patrie, ils aiment leur protectionnisme, leurs frontières, machin. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent dénoncer une situation comme ça? Parce que si c'était le cas pour la France, eh ben, il serait dans les mêmes positions quasi que le pouvoir polonais.
Alors, on va être clair, hein, moi, ce qui me choque surtout, c'est d'avoir des très beaux discours sur le révisionnisme de certaines personnes d'extrême droite. Et je suis le premier à dénoncer ce discours de merde que peut avoir un Zemmour, notamment, ou un Bardella. Il n'y a aucun problème avec ça, mais quand on dénonce le révisionnisme, en fait, on essaye d'appliquer ses valeurs après. Parce que sinon, c'est qu'on on est un petit peu loin. Et juste dans la dénonciation vide.
Ce sont juste des politicards.
Voilà. Alors soyons clairs. Hein. Moi, je crois que personne à la causerie n'est fan des frontières, de l'armée et d'autres trucs comme ça. Hein, on va être très clair.
Si je vois Clara qui lève son doigt.
Clara qui vient de nous faire un coming out. Si, moi, j'aime beaucoup l'armée. Non, plaisante. Et je peux même dire que personnellement, hein, je suis pour l'abolition des frontières, le partage non pas des richesses mais des besoins, et que tous les humains de la planète sont enfin dans des conditions de vie, de liberté. Le plus élevé possible. Et quand je vois que l'on panique à l'idée d'accueillir 4000 personnes, parce que c'est ça dont on parle.
Oui.
On panique à l'idée d'accueillir 4000 personnes sur le sol européen. Alors, je vous rappelle qu'on est 447 millions. Hein, donc 4000 personnes versus 447 millions.
C'est quoi 0,001%, un truc dans le genre, même pas.
Je pense que ça devrait aller. Je sais pas si c'est comme ça, mais ça devrait bien se passer. D'ailleurs, c'est marrant, je fais une toute petite parenthèse. On n'arrête pas de nous parler, vous savez, de tous ces villages désertés, toutes ces zones vides où il n'y a personne qui peut habiter, tout ça. Ben, en fait, on manque même pas de place. Vous voyez, enfin, je dis ça comme ça, voilà. Alors, je dis hein, qu'il est temps quand même de remettre les choses un peu à plat et d'arrêter de se faire peur. Alors, oui, il faut laisser ces gens entrer. Moi, je vais être très clair. On sait que c'est Loukachenko, on sait que c'est un jeu de dupes, on sait tout ça. Mais on ne va pas continuer à laisser des gens servir de pion dans un truc pareil et des enfants, des femmes et des hommes crever de froid parce qu'on en est là juste parce qu'on veut pas céder à une espèce de taré qui est à la tête d'un pays et qui n'est qu'un dictateur. Il y a un moment donné, faut ouvrir les frontières, les laisser rentrer, faut les partager au niveau européen, on saura faire, on est 47 millions, on peut accueillir 4000 personnes, ça devrait bien se passer. Voilà, c'est-à-dire que vous inquiétez pas. Et oui, il faut cesser en fait de voir l'autre comme un ennemi permanent, parce que c'est ça qui est rentré dans la tête des gens, tu disais tout à l'heure, c'est cette peur là, c'est dire l'autre est un ennemi, mais non, l'autre c'est un gars qui est, ou une nana qui est comme vous et moi, et qui d'un seul coup se dit juste bah, en fait là où je suis, c'est la guerre, on m'a proposé de venir là parce que oui, on les a arnaqués, on leur a menti, mais est-ce qu'on continue nous à se dire que c'est normal, est-ce qu'on continue à se dire oh bah ils avaient qu'à pas être aussi bêtes, enfin, je l'ai entendu ça aussi, hein. Donc bah non, en fait à un moment donné ils sont pas bêtes, ils sont paniqués, ils ont peur, ils veulent vivre, c'est tout ce qu'ils demandent, et alors on ouvre les frontières, on les accueille dignement. Et la meilleure réponse qu'on puisse faire d'ailleurs à Loukachenko, c'est ça, c'est lui dire, mais regarde, même ça, ça marche pas. Regarde, en fait, on est une terre d'accueil, on n'est pas une terre de peur et de repli. Oui, il faut donc que nous bougions, nous les progressistes, les gens de gauche, les anards, pour faire entendre une autre voix que la petite musique du repli qui en ce moment remplit un petit peu trop les oreilles partout dans le monde et surtout en France et en Europe en particulier. Alors on peut ne pas accepter laisser faire cette situation. Et cette utilisation d'êtres humains comme moyen de pression au péril de leur vie, je le dis en prime, on peut dire que c'est dégueulasse, on peut dénoncer Loukachenko tout en ayant une vision humaine des choses et de se dire oui, ok, c'est dégueulasse, mais non, ils n'ont pas à payer le prix de ce que fait ce dictateur. Point. Et l'on ne doit pas et nous ne pouvons pas laisser s'installer des discours sans les dénoncer, des discours de haine, des discours de violence qui réduisent l'autre à une chose sans forme. Il nous faut porter des voix différentes, porter l'entraide, l'accueil, plutôt que le repli et la haine. Je ne crois pas qu'on aura simplement des jolies avancées en se disant simplement les autres sont des méchants et nous on est les bons. Il faut le prouver. Il faut y aller au bout de l'idée. Et en Pologne, depuis le mois d'août, hein, et la mise en place du refoulement à la frontière, parce que oui, je vous disais que ça avait commencé en août, hein, cette histoire-là, des manifestations ont lieu pour dénoncer cela, en particulier avec à leur tête celles qui se font appeler les mères polonaises. Et les mères polonaises, si vous allez voir, vous cherchez sur Internet, elles rappellent en fait justement que cette région a été une zone d'horreur, parce qu'il y a eu des camps, parce qu'il y a eu tout ça. Et elles disent, mais on n'a pas envie de revivre ça, de reconnaître ça. Et elles disent, mais c'est des enfants qui sont là, c'est des enfants. Et elles disent, nous, les enfants, ils viennent et ils boivent un chocolat chaud. C'est leur slogan actuellement. Je trouve ça, voilà. C'est peut-être là-dessus que nous devons nous appuyer sur ces mouvements-là pour qu'on les amplifie et on les fasse vivre au niveau européen, dans toute l'Europe, et qu'on se descende dans la rue, dans toute l'Europe, pour les soutenir et pour soutenir ce qui porte, de dire, à un moment donné, nous, on est prêts à dire que des enfants n'ont pas à payer le prix d'un timbré qui les utilise. Alors, c'est pas... entre nous, en luttant juste contre l'extrême droite, qu'on va faire avancer les choses. Parce que être contre, c'est bien, mais il faut lutter pour l'accueil inconditionnel de celles et ceux qui en ont besoin. Je sais, je le dis souvent dans l'émission, je sais, mais c'est pas quand même de ma faute si le monde change pas assez vite. Voilà, c'était juste, j'avais envie de parler de cette situation.
Mais tu fais bien, mais en même temps, je suis tellement flippé de voir que même sur Lyon, quand on fait des manifs pour l'accès au logement, pour des mineurs isolés qui sont dans la rue, on est quelques centaines au maximum. Alors là, te dire quelque chose qui se passe en Pologne, etc., c'est trop loin du nombril de beaucoup.
Ouais.
Mais Fab est l'optimiste. Moi, je suis pas du tout l'optimiste.
Non, c'est pas ce que j'allais dire. C'est que moi, je crois en nos auditrices et en nos auditeurs. Et je pense que s'ils nous écoutent, c'est pas juste pour passer leur dimanche à 22h.
Ouais, mais alors... Alors, avec tout le respect que j'ai pour vous, amis auditeurs, auditrices, je ne pense pas que nous ayons des millions d'auditeurs et d'auditrices.
Moi non plus. Mais ils connaissent des gens.
Ok, donc faites passer le mot et puis on règle nos montres et puis ça y est quoi.
S'ils sont 1000 à nous écouter et qui convient que 10 personnes chacun, qui elles-mêmes convaincront 10 personnes chacune, on peut être vite nombreux. Non mais sans déconner, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment reposer des bases et en fait, il faut poser l'idée qu'accueillir inconditionnellement des gens qui sont dans le besoin, c'est une base de ce qui doit nous unir, point. Mais vraiment, je dis pas ça pour faire du béni oui. Hein,
mais moi je suis d'accord avec toi, sauf que je pense que ça passera aussi par le fait de secouer toutes celles et tous ceux qui soutiennent ces candidats soi-disant de gauche, qui ont des positions absolument dégueulasses sur toute personne qui vient d'ailleurs, sur le fait d'avoir leurs frontières à la con, et tant qu'on secouera pas tout le monde, ben on va se retrouver à quelques centaines dans nos petites manifs quoi.
Et n'oubliez jamais que les Français sont un peuple germain, ça vous fera réfléchir. Allez, on va un peu de musique.
Et l'en nerva nouveau.
De retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Avant que je vous parle de ce titre, je vais corriger quelque chose que j'ai dit juste avant la musique. Quand je dis les Français sont un peuple germain, je ne sous-entendais pas du tout que les Français étaient des nazis. C'est pas du tout.
Ni que les Allemands sont des nazis.
Non, c'est simplement qu'historiquement, les Francs viennent en fait de l'Est et donc arrivent d'Allemagne. Et donc, nous sommes issus de migration. Donc, il faut arrêter d'avoir peur des gens qui bougent, tout simplement.
C'est l'histoire de l'humanité.
Ça fait juste partie de notre humanité de bouger. Donc voilà, arrêtons d'avoir peur. Et ce titre, c'était Dénès Prigent hein, qui chantait Lester d'Ignez, ce qui veut dire le bateau, le navire détresse, pardon. Et en fait, c'est une histoire hein, qui compte, c'est une sorte de conte qu'il a écrit, sur des gens qui prennent un bateau, ils sont obligés de partir parce que là où ils vivent, ils ne peuvent plus vivre, et ils leur souhaitent en fait de trouver à l'arrivée le bonheur, la joie. Voilà, et donc c'est juste l'idée, ça collait avec ma chronique d'avant. Et donc Jean-Yves, toi tu voulais nous parler d'une BD.
Tout à fait, ce soir je vais vous parler de la BD Grand Silence, de Théa Rosemann et de Sandrine Revel aux éditions Glénat. Alors évidemment, comme à ma petite habitude, quand même quelques mots, des longs mots sur les autrices. Alors Théa Rosemann, hein, qui est au scénario, elle a après des études de philosophie où elle est allée jusqu'à la maîtrise en fait, elle dessine et elle écrit depuis toujours, et elle a suivi une formation de thérapie sociale pour devenir psychothérapeute des groupes en crise, mais elle réalise en fait en même temps une première expérience d'autrice en bande dessinée en mettant son art au service d'une autobiographie familiale qui s'appelle La Réconciliation, et elle l'a fait avec son père Charles Rosemann. Elle publie aussi ensuite en tant qu'autrice complète, c'est-à-dire au scénario, au dessin et à la couleur, plusieurs albums hein, dont Le Carnet de rêve, Sage comme une image, Chacun porte son ciel, qui est un livre de poésie illustrée, et aussi Mourir ça n'existe pas. Voilà. Et aujourd'hui en fait elle se consacre exclusivement à la bande dessinée pour construire des récits qu'elle nourrit en fait en partie de ses formations et expériences professionnelles qui lui ont permis finalement de croiser des savoirs et des intimités. Et ces bandes dessinées en fait elles mélangent souvent les genres, c'est-à-dire humour, polar, histoire, jeunesse, conte, etc. Et tout en explorant quand même ses obsessions, hein, parce qu'on peut les appeler comme ça quand même, parce que les thèmes sont souvent présents, tels que la violence, la souffrance et aussi les résiliences humaines. Et elle travaille actuellement, y a déjà un tome je crois qui est sorti, je crois que le deuxième n'est pas encore sorti, de P12 face au nazisme, et aussi de Scum, et aussi Billy Bang Bang, voilà. Et Sandrine Revel, qui est au dessin. Alors elle, après les Beaux-Arts, en fait, elle se lance direct dans la BD en réalisant ses tout premiers albums, Bla Bla Bla, aux éditions Le Cycliste, mais aussi L'Avenir est un paradis, puis une série qui s'appelle, enfin une série, la série de bande dessinée qui s'appelle Un drôle d'ange gardien. Et en 2002-2003, en fait, elle réalise deux albums très personnels, Le 11e jour aux éditions Delcourt et Intérieur Jazz, pardon, qui lui est en fait est dédié aux femmes du jazz. Donc ça peut être hyper intéressant. Moi, je connaissais pas ses ouvrages, mais ça m'intéresse vraiment. Pardon. Et parallèlement en fait à ses créations, elle assure aussi de nombreux travaux d'illustration dans la presse jeunesse. Voilà, elle a aussi écrit un autre un prix en fait à Angoulême, elle a pour Glenn Coud, Une vie à contre-temps en fait au Festival international de la BD. Hein. Voilà, et alors elle, c'est intéressant aussi justement ses influences, parce que je les ai trouvées enfin, dans sa bio, qui se situent outre-Manche avec des illustrateurs tels que Ralph Steedman, Ronald Sear et aussi des peintres comme Jean Rustin, Lucien Freud et Edward Hopper. Et vraiment, je me suis amusé justement en trouvant ça, à chercher un petit peu les créations de ces artistes-là. Et ouais, il y a vraiment une, il y a des choses qui sont hyper intéressantes et qu'on peut retrouver un petit peu dans ces traits, dans cette BD. Donc, Grand Silence, dont on va parler, enfin dont je vais vous parler tout de suite. Donc, autant le dire d'entrée, hein, Grand Silence, en fait, c'est une BD qui nous parle des violences sexuelles commises sur les enfants sous la forme d'un conte philosophique pour adultes. Même si c'est pas exclusivement
ado et adulte peut-être.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense qu'à partir de 11 ans, 12 ans, je pense qu'on peut, on peut accéder au bouquin. Même si évidemment, encore une fois, quand on a des livres comme ça, il s'agit pas de le lâcher dans les mains de vos enfants, filleuls, neveux ou je sais pas quoi. Non, en fait, enfin, faut qu'il y ait un accompagnement aussi. Enfin, faut pouvoir en discuter derrière, quoi. Faut pas juste donner le truc et dire bah tiens, démerde-toi avec. Non, ce n'est pas ça. Donc voilà. Donc alors. On se trouve, dans Grand Silence, hein, on se trouve dans un pays imaginaire où se trouve Grand Silence. Et Grand Silence, en fait, bah, c'est le nom d'une usine qui avale en fait les cris des enfants maltraités. En fait, elle a une grosse cheminée comme ça, et toutes les paroles des enfants victimes, bah, elles sont absorbées, aspirées par cette grande
cheminée,
pardon, et je perds mes mots ce soir, pardon, je suis vraiment désolé. Et on va donc suivre aussi, hein, l'histoire de deux jumeaux, Arthur et Ophélie, tous les deux maltraités, j'ai envie de dire, ouais, violés, ou en tout cas ayant subi des agressions sexuelles, bah, l'un par un cousin plus âgé, ce cousin était une ancienne victime, et l'autre en fait par un homme politique, entre guillemets respectable, un baron politicard, quoi, qui lui s'appelle Octave, donc ce baron. Et en fait, Arthur et Ophélie vont avoir la chance de croiser sur leur route leur professeur Maria, elle-même ancienne enfant maltraitée. Et en fait, elle va tout faire pour les aider et aussi aider les autres, en fait. Et pour ça, elle va agir sur deux pans qui sont en lien, quoi, en fait. Il y en a un sur lequel c'est aider les enfants finalement à avoir la force d'exprimer leur douleur, de ne pas la taire, et de l'autre, en fait, obliger les adultes à écouter cette souffrance, en fait, même si Maria elle-même passera aussi par le refus, on refusera de l'écouter, que ce soit un proviseur, des flics ou encore des journalistes. Elle aura le droit à un mur finalement face à elle. Donc voilà. Et on comprend justement alors l'utilité en fait de cette usine de Grand Silence. Finalement, une invention des adultes pour faire taire les enfants et essayer, et je crois qu'ils y arrivent plutôt bien, bah de continuer à vivre comme si de rien n'était. Hein, tout va bien dans le meilleur des mondes tant qu'on n'entend rien. Mais un jour, badaboum, il est beau cet effet, l'usine explosera. En tout cas, quelqu'un fera sauter cette usine. Et ça aura pour effet, évidemment, de libérer les cris des victimes, les paroles, en fait, des victimes. Et on verra, ça aura pour effet, en fait, de faire changer les personnages de couleur. En tout cas, ils vont se colorer. Et alors, on aura du rouge, en fait, pour les coupables, du bleu pour les victimes, et même du violet, en fait, qui est un mélange de bleu et de rouge, hein, physiquement.
Jusque-là, ça se tient.
Ça se tient. Bah, pour les personnes qui sont des anciennes victimes, mais qui sont, à leur tour, devenues finalement des coupables, des agresseurs. Et en fait, ce changement de couleur, en fait, il fait partie de différentes manières, en fait, de mettre en image des choses, des faits, des sentiments que moi, j'ai trouvé hyper bien foutus, voire presque joli pour certains. Enfin, il y a quelque chose de poétique ou onirique, je saurais pas exactement arrêter un mot, mais par exemple, on a, lorsque les enfants en fait subissent une maltraitance, et ben en fait ils perdent leur tête, mais rien de sanguinolent, hein. C'est-à-dire que d'un coup ils vont se réveiller, ou ben ils vont avoir leur tête à leurs pieds ou à côté d'eux, et donc ils vont reprendre leur tête et la remettre là où elle doit être, c'est-à-dire sur les épaules.
On voit quand même le côté psychanalytique de...
Oui.
La dissociation.
Hein, oui,
la dissociation.
Ouais, c'est ça, en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant, justement, de mettre ces choses-là en image, d'une certaine manière. On est un peu à côté de soi, mais parce que c'est ce qui se passe, en fait, quoi. Et il y a aussi, lorsque les victimes parlent, et ben en fait, on les entend pas. Et en fait, leur bulle, dans la BD,
bah elles sont vides. Donc c'est, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, et vraiment, il y a quelque chose de très beau presque dans cette manière de faire, où il y a encore aussi ces petites bestioles qui accompagnent, entre guillemets, je dirais, certains personnages du récit, qui là aussi, en fait, c'est une mise en image des procédés, des conduites à risque autodestructrices. On a par exemple Ophélie, hein, qui aura la petite bestiole qui s'appelle Honte, alors honte, pas avec un H devant, juste O-N-T-E, mais qui lui interdit de manger, en fait, pour devenir très très maigre et disparaître. Ou on a encore Arthur, qui a aussi une bestiole, qui elle s'appelle N-A-I-N-E, bah, qui lui demande, en fait, de faire du mal et de grosses bêtises pour qu'on le déteste. Donc on est vraiment, justement, dans cette mise en image de ces processus autodestructeurs que... Alors, j'ai pas les chiffres là maintenant exacts en tête, mais qu'on remarque, qu'on retrouve chez pas mal de personnes ayant subi des viols, des violences sexuelles, etc. Et vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était super bien foutu. Enfin, il y avait une manière poétique, finalement, de mise en image de tout ça. Et en fait, là aussi, sous ces airs, comme je disais, hein, poétique, onirique, etc., cette BD, en fait, elle n'oublie pas non plus de mettre en image des problématiques plus globales. Autant là, ce que je vous disais, c'est vraiment un peu plus à l'échelle individuelle, si on peut dire. Et là, en fait, il y a d'autres choses, c'est des problématiques plus globales, liées toujours, hein, aux violences sexuelles dont sont victimes les enfants. Comme par exemple, l'homme politique qui est... évidemment apparemment respectable, qui crée sa propre impunité, en fait. On a aussi les parents qui sont sourds aux douleurs et aux messages que leur envoient leurs enfants, parce qu'il y en a vraiment, en fait. Et il y a aussi les autorités qui préfèrent se boucher les oreilles, ou les pouvoirs politiques qui plutôt que chercher des solutions, préfèrent, en préparant leur prochaine élection, parler du travail, des étrangers, de la croissance aussi. Bah oui, en fait, c'est peut-être qu'on n'a pas envie, en fait, finalement, de vraiment regarder les choses en face. Donc vraiment, c'est vraiment génial. Et encore une fois, là aussi, le boulot de Sandrine Revel au dessin, moi, je le trouve vraiment sublime, en fait, entre un style... effectivement enfantin, enfin moi j'ai adoré ça, entre un style enfantin et vraiment des images hyper fortes, en fait. Enfin, je vais pas vous reciter, mais tout ce que je vous dis là, moi je le trouve que c'est vraiment super bien foutu, quoi. Et tout comme les décors, ils sont super beaux, les couleurs, c'est très très beau, enfin vraiment, c'est de toute façon là, si vous nous écoutez, que vous tapez le grand silence sur internet, vous allez trouver déjà des images, etc. Vous pouvez déjà vous faire une idée, en fait, de ces couleurs, de ce trait qu'a Sandrine Revel. Et donc voilà, donc et justement, en fait, le message, il est très clair, hein, on l'a déjà répété ici très souvent, c'est refusons le silence, en fait, plutôt que de le briser, parce que briser, ça sous-entendrait presque que les victimes n'ont pas parlé, ne voulaient pas parler, sauf qu'on le sait, en fait. Et que là, c'est très bien mis en image aussi, c'est que si l'usine, en fait, avalait toutes ces paroles, c'est bien que les victimes parlaient, en fait, mais que les autres ne les écoutaient pas, en fait.
Il n'y a pas de libération de la parole, c'est plutôt, il faudrait qu'on commence à écouter ce que les gens disent.
C'est ça,
d'où la parole, elle est déjà libre.
Mais bien sûr, c'est ça, en fait. Et vraiment, et même dans la BD, on le verra, il y a des victimes qui envoient clairement des signaux. Donc après, c'est est-ce qu'on veut les voir ou on veut pas. Donc c'est, encore une fois, c'est pas briser le silence, je crois vraiment, c'est ça, il faut le refuser absolument, en fait. Donc voilà, donc... j'ai adoré,
même ça s'entend.
Oui, en fait, en même temps, on vous parle rarement, enfin, en tout cas, quand on parle d'art, etc., on vous parle rarement de choses qu'on n'aime pas, parce que ça ne nous intéresse pas de détruire des choses. Et que là, c'est vraiment génial, donc moi, je vous invite vraiment à la lire. Et alors, la BD, en fait, elle se termine aussi sur une postface de Théa Rojman, qui, alors, elle aussi a un passé de victime et qui va aussi parler de certaines choses. Et il y a aussi un rappel de chiffres. Alors, peut-être que ça sera une redite pour vous, mais je crois qu'il faut absolument intégrer tous ces chiffres et se rendre compte de l'ampleur, en fait, de toutes ces violences et de toutes ces violences sexuelles, etc. Et tout à la fin aussi, il y a une liste d'assauts où vous pouvez trouver de l'aide et de l'information. Et ce que je trouve aussi, encore une fois, hyper intéressant, justement, on est dans quelque chose de complètement artistique, créatif et tout, tout en ayant quand même quelque chose de très terre à terre, et que derrière, ça soit aussi un outil finalement pédagogique, sans avoir tout un discours non plus militant, parce que ça peut être très chiant, soyons clairs. Mais pour autant, on file de l'information. Et je trouve que c'est vraiment bien foutu. Enfin, voilà, donc, bref. Moi, je vous dis juste, lisez-la et faites-la lire. Et si vous la faites lire à des jeunes,
encore une fois, c'est à votre...
Discuter.
C'est ça, c'est votre rôle, vous, d'adulte, d'accompagner, en fait. Parce qu'on ne peut pas laisser non plus des jeunes avec juste un truc et démerde-toi, non, en fait. Il faut pouvoir en parler, alors c'est pas forcément tout de suite après, mais il faut qu'il y ait des espaces ouverts, en fait. Donc, je vous rappelle, un grand silence chez Glenna de Théa Rojman et Sandrine Revel.
Eh ben, c'était bien et ça donne très envie de le lire.
Oui, certaines personnes l'ont lu, mais elles ne diront rien.
Ah, ben moi je ne l'ai pas lu, mais on n'est que trois. Ah bon, bon d'accord. Tu veux pas nous dire si ça t'a plu ou pas ?
Oui, oui, ça m'a plu.
Ouais. Non, mais c'est une bonne BD.
Oui.
Ok,
oui.
Bah, c'est cool. On va être au moins deux à le dire.
Oui, non, et alors effectivement, moi il y a un truc, au moins, alors je vais le dire, hein, au moins quand je l'ai lu la première fois, j'ai mis, je crois, un jour ou deux à me dire... Putain, il y a un truc qui me chamboule, qui me perturbe. Et en fait, c'est cette matérialisation en fait, des victimes qui sont devenues bourreaux. En fait. Mmh. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que toutes les victimes deviennent bourreaux. Ça n'aurait absolument aucun sens.
Ça existe aussi.
Mais c'est une réalité. Et c'est un truc un peu... qu'on n'est pas habitué, je pense. Mais alors, c'est là, en tout cas, c'est à titre personnel. Souvent, on peut souvent être dans un binarisme victime, bourreau. Sauf que parfois, des victimes peuvent devenir bourreaux. Et c'est matérialisé dans le livre, en fait. Et vraiment, moi, je sais qu'au début, je me dis, oh, putain, il y a un truc qui me. Et en fait, je pense que c'était ça. Mais qu'encore une fois, ça ne veut pas dire que toute victime devient bourreau. Mais, et que, ni que tout bourreau a été victime. Mais c'est aussi une part de la réalité. Donc voilà. Maintenant, vu qu'il est très tard déjà...
On va passer un titre de 7 minutes.
Ouais, c'est ça en fait. Alors, c'est, oui, au départ, on devait faire assez court tout ça, l'émission. Sauf que bon, il est déjà 52. et en fait, voilà, là, c'est un long titre et vraiment kiffé. Et un petit bisou à Georges, s'il nous écoute, l'astrologue. Non, je déconne.
L'astronome.
Ben oui, l'astronome. Parce que voilà, on va partir un petit peu loin.
En supernova.
C'est ça.
Face à l'étendue que cette matière noire dissimule, je ne suis rien qu'un petit point perdu dans l'univers. Un petit point qui souvent se croit plus gros que Jupiter. J'attrape le tournis à plonger les yeux dans l'espace. Alors je relativise l'importance de notre espèce. De là-haut, un homme qui crie n'est autre qu'une messe basse. Un détail, une insignifiante mauvaise passe. Nos vies sont tellement brèves, je les croyais palpitantes. Il y a des millions d'années-lumière dans une étoile filante. Là-bas le sombre est clair, là-bas le vide est plein. Là-bas je représente l'éclat d'un soleil en déclin. Retour vers le futur, voilà qui donne le vertige. Voilà qui minimise le prestige de nos vestiges. Poussière de particules, sa force l'humilité. La portée du Big Bang m'apparaît comme une futilité. Super. Nova. Super. Nova. La nuit, j'observe la Terre et je me sens ridicule, drapé dans la fierté de ma taille majuscule. Marié à l'infini, je navigue dans le rien. Je suis mère des vertiges et je n'ai pas de main. Je vois la chose humaine se débattre et j'en veux. Astre immobile toujours, je désastre et j'en veux. Je vous chauffe de loin même si j'en ai pas l'air. Dans le parfait du temps, vous m'appelez polaire. Moi je ne fais que être, voilà ma perfection. Et les hommes s'envolent, ils disent aviation. Je ne pense pas, je brûle, à vous, les cheminées qui rassemblent les cœurs.
d'exister. Supernova. Supernova. Entendez, s'il vous plaît, la chanson de ma fièvre. Je ne vous parle pas, je suis privé de lèvres. Si le feu chaque jour me met le rouge aux joues, c'est sans vous, sans faiblesse, j'ai la vertu du tout. La nuit j'observe la terre et je me sens ridicule. Alors j'offre le temps au géant crépuscule. J'expulserai sans mots, sans mille particules. Et l'hiver se taira, et c'est mon tour. J'ovule. Et j'irai moi aussi moissonner la colère, dans le fracas du vent, danser dans vos tonnerres. C'est demain que j'explose, et accueillez mon vent. J'offre une fin de lumière, et je vous fais maman. Voyage interstellaire, un moment d'évasion. Il y a dans notre sphère céleste 88 constellations qui prétend percer le mystère de la création. Ça reste pour l'instant la célèbre inconnue dans l'équation. Et le clan des bigots préfère appeler ça Dieu. Ça rassure, j'appelle ça l'infini, l'astronome te le dira mieux. C'est sûr que ça fascine, ça fout la peur au ventre. Et dire qu'il n'y a pas longtemps, ces fous furieux croyaient la Terre au centre. La science a d'autres convictions. Le rêveur que je suis accepte l'éphémère de sa condition. Un concentré de matière grise d'énergie cosmique. Et me voilà sur scène à faire la zic à l'esprit caustique. S'agit de prier avant que ma lune se ternisse. Être fier de la trace que je laisse à la fin de l'exercice. Je ne suis plus l'homme qui crie, mais l'homme qui danse à la petite ours, à la grande ours. Je m'éclipse et tire ma révérence. Super Nova. Super Nova. Super Nova. Super Nova.
C'est sûr que ça fascine, c'est sûr que ça fout la frousse. C'est un titre de Marc Namour, qu'on connaît aussi sous le nom La Canaille, et de Loïc Lantoine avec le titre Supernova. Quand du matérialisme est mis si joliment en musique et en texte, c'est vraiment... Enfin, c'est magnifique. Je trouve que c'est tellement beau, quoi. Enfin, bref, je vous invite vraiment à écouter leur album, commun qui s'appelle Fier et Tremblant. C'est une pure merveille. Et bien voilà, on se quitte avec quelques petites brèves quand même avant.
Et bien oui, alors déjà on va rappeler que personnes qu'on avait reçues la semaine dernière, c'est-à-dire le festival Interférence, le festival est toujours en cours, donc vous allez sur le site, j'ai perdu la cité doc, je l'ai noté là, lacitedoc.com, et donc voilà, vous tapez festival Interférence sur votre moteur de recherche, il y a encore pas mal de diffusions.
C'est jusqu'au 20 si je me plante pas.
Ouais, c'est ça, il y a encore pas mal de diffusions, donc je vous rappelle le principe, un document suivi d'un débat. Voilà.
C'est ça. Et il y a aussi un festival qu'on a oublié d'annoncer la semaine dernière, mais qui a déjà commencé, c'est le festival Brisons de Silence, qui est initié par l'association Filaction, qu'on a déjà reçu aussi.
On l'a fait à trois, on l'a recommencé.
C'est trop, trop beau. Quelle cohérence. Donc l'association Filaction, qu'on a aussi déjà reçu il y a quelques années déjà, et c'est le festival qui a lieu sur Lyon aussi. Hein. Et cette semaine, pareil, il y a du théâtre, du ciné, etc., différentes choses autour des violences dites conjugales, et voilà, des violences sexuelles, etc. Voilà. Et je crois que c'était tout, non ?
Alors, normalement, je le dis normalement, vous vérifierez d'ici là, mais il devrait se tenir une manifestation à Lyon. Départ à 14h, place des Terreaux, par le collectif Jamais Sans Toi, T-O-I-T. Donc, c'est samedi 20, samedi prochain, à partir de 14h, place des Terreaux, pour réclamer un toit pour tout le monde. Tout simplement, parce que c'est bien pour vivre, d'avoir un toit. La deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs rassemblements partout en France et à Lyon aussi, en soutien au peuple soudanais, qui en ce moment lutte contre la junte militaire qui veut juste remettre en place une dictature. Voilà. Ouais. Ils ont pas peur sur place, mais la diaspora aussi, comme on dit, a envie de les soutenir. Et puis même si vous n'êtes pas de la diaspora, vous pouvez les soutenir. Mais je veux dire, il y a des initiatives qui sont lancées et c'est intéressant d'y être. Et là aussi, de montrer notre solidarité et de ne pas les oublier.
C'est ça, international. Eh bien, on va se quitter là, n'est-ce pas ? On se donne rendez-vous dimanche prochain, 22-23, toujours à l'antenne de Radio Canu. Et d'ici là, évidemment, il y a d'autres émissions. Non, mais un petit coucou quand même à Guillaume de Musique, etc., qui passe le dimanche matin de 10h à midi, si je ne me plante pas, et qui reçoit toutes les semaines deux invités musicaux, deux groupes, deux artistes, en tout cas du domaine musical. Et c'est dans des domaines très, enfin, dans des styles très différents. Et c'est vraiment, enfin, c'est des découvertes toutes les semaines qui vous sont proposées par Guillaume dans Musique, etc. Et évidemment, il y en a plein d'autres émissions, hein, mais on ne va pas toutes les faire.
Non, mais de temps en temps, on dit des coucous comme ça.
C'est ça. Et je crois que c'est Clara, non, qui annonce le dernier titre.
Oui, c'est ça.
Ouais. Ah, ouais.
Elle est toute timide.
C'est ça. Donc oui, on se quitte avec...
Ah, il faut parler devant le micro.
Parle devant le micro. Je parle devant le micro.
C'était pour t'embêter, pardon.
Je disais donc, on se quitte avec Undone, The Chosen Ones du groupe Echo Echo.
Echo Echo, en tout cas.
Alors, on sait pas, mais en tout cas, c'est un petit peu comme Altar Bass. Si vous écoutez régulièrement La Causerie, vous aurez tout l'album d'ici peu. Voilà.
Je ne suis pas Jean-Yves.
Non, mais il en a déjà mis.
On se complète, hein, je ne vais pas mentir.
À vous deux, je pense qu'on devrait y être. Voilà.
Bah écoute, la bonne musique, on ne s'en lasse pas, c'est tout.
Exactement.
On est des gens de...
Allez, on vous souhaite une bonne semaine. Courage à tous ceux qui travaillent, et tout courage à tous ceux qui luttent, et tout courage à tous ceux qui ne travaillent pas aussi. Enfin, moi, en gros, essayez de passer une bonne semaine malgré tout ça.
C'est ça. Des bisous et à dimanche prochain.
Des bisous, ciao. Salut. Ciao.